Nous sommes mercredi 1er novembre 2017, il est 21 h et vous écoutez le Dojo Bar très enrhumé.
B
Bar très enrhumé.
B
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Nous avons Zergy Echo aussi. Je vais te redéplacer Zergy parce que... Voilà, merci. Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Galaxies.
Ouais, j'adore.
Bien. Bonsoir Zergy qui malheureusement a un petit souci technique apparemment puisqu'on n'arrive pas ni à l'entendre, ni à le faire parler, ni à parler. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais on va y arriver. Ce soir, nous allons parler avec une voix très cassée, je m'en excuse par avance, des Mario 3D, sachant que je vous expliquerai qu'on a eu un petit peu du mal à préparer cette émission sur les Mario 3D pour tout un tas de raisons. On va s'intéresser plus particulièrement aux mécaniques de ces Mario 3D exploratifs, parce que ça va nous servir en gros d'introduction à l'émission Super Mario Odyssey qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, c'est annoncé. Mais nous allons commencer tout d'abord par notre traditionnel tour de table de l'actu. Et c'est Monsieur Galaxies qui va commencer avec deux petites actus. Une première qui n'a rien à voir avec Nintendo et une très rigolote.
Alors, est-ce que vous connaissez...
Il est parti.
KCC Marvel. Alors, non. Donc
alors,
le...
juste en avant, gros... quand même.
Oui, bonjour.
Voilà. C'est important.
D'accord. Qui s'ouvre son petit Dr Pepper, nous ne sommes pas payés à acheter. Alors.
Promotion au Carrefour de Melun.
Non, attends,
encore
déjà,
falloir citer trois marques.
Donc, il y a eu le trail. Donc, qu'est-ce que c'est Infinity War? Infinity War, c'est la fin de la phase 3, si je dis pas de bêtises, de Marvel. C'est donc le film Avengers qui est censé conclure tous les films qu'on a eu depuis 10 ans. C'est ça? Ouais, 12 ans, je dirais même. Soyons fous. Et il se trouve que le trailer avait été diffusé, si je dis pas de bêtises, à la Comic-Con. Et il se trouve que quelqu'un l'avait filmé. Et donc du coup, qu'on a le premier trailer filmé de travers, en qualité toute pourrite, bien évidemment. Et voilà, mais au moins il est là, et on voit différents super-héros se réunir, comme le casting le laissait, enfin, prévoir, quoi, simplement.
Donc on a une énorme surprise, c'est un film Marvel.
C'est incroyable, et il y aura Loki, qui est très stylé. Deuxième petite news, c'est la semaine dernière au Japon, il y a eu 41 ventes de la Wii U.
Nous tenons à remercier toute la famille de Shigeru Miyamoto qui a fait l'effort d'acheter une Wii U la semaine dernière.
pour rassurer quand même, hein, pour pas trop qui désespère, nous avons prévu de faire une émission spéciale la semaine prochaine sur ces 41 personnes.
Bah, elles seront toutes invitées en direct.
Voilà, avec un interprète japonais pour l'occasion. Et
Ah, je suis Jean-Michel Le Boutage de ce...
et voilà, et donc du coup, on va les interviewer parce que c'est une news incroyable.
Merci. Parce que c'est pas 41 personnes qui voulaient une Switch et compris une Wii U en désespoir de cause.
Je ne pense pas. Ils se sont dit, tiens, il y a Mario Kart 8 aussi, j'y vais. Non, c'est bizarre.
Ouais, ou alors ils ont confondu avec, je sais pas, avec genre une tablette, les tablettes Toshiba ou les trucs, tu sais, pour les gamins. Ils se sont dit, une tablette, machin, je vais l'offrir à mon petit.
Alors, Zergy nous dit dans le chat, ça fait toujours plus que la Xbox One. Zergy a peut-être toujours un petit problème technique, je lui donnerai la parole dans quelques secondes, je vais le laisser arranger ses choses. Je vais entre deux laisser la parole à Monsieur Antix pour une nouvelle concernant la Switch, une nouvelle un peu curieuse, rigolote.
Plutôt intéressante, en fait, c'est le... récemment, Tonton Kiki... a fait le bilan financier de Nintendo sur les 6 premiers mois de l'année fiscale japonaise, donc qui vont de avril à septembre. Dans son petit rapport, il a parlé de la Switch, évidemment, qui marche plutôt bien, au point qu'ils espèrent en vendre 14 millions d'ici à mars de 2018, ce qui ferait plus que de Wii U dans toute sa vie.
Alors, sauf si les ventes du Japon continuent à décoller à ce point-là de la Wii U, voilà, parce que 41 personnes, si la semaine prochaine, il y a 3-4 personnes de plus, plus 10% quand même, pas négligeable.
C'est, putain, voilà. C'est affreux. 4 personnes de plus, ça fait plus 10% de plus. C'est horrible. Enfin, c'est tellement bas, 41, quoi.
Et donc, il a publié un pub qui était plutôt intéressant, et pour le coup, moi qui m'intéressais, c'était le pourcentage d'utilisation de la console en fonction de ses différents modes. Donc je rappelle que c'est une console à la fois de salon et portable, que l'on peut mettre dans un petit dock télé au chaud pour afficher l'image sur sa télé, ou transporter avec soi dans le car, les transports, dans la rue, éventuellement se le faire voler dès qu'on va dans le 18ème. Donc c'est assez intéressant de savoir comment la console était pratiquée par les joueurs. Et donc Nintendo, grâce à ses petits bots qui récoltent des informations via des connexions internet, a pu déterminer que 20% des utilisateurs laissaient la console dans son dock et ne jouaient que sur la télé, et que 30% jouaient exclusivement en nomade. 50% à peu près de personnes qui sont dans la zone grise. Et c'est plutôt intéressant, puisque du coup on se rend compte que la console est quand même une... Alors on va dire, pour ceux qui jouent exclusivement, a quand même une utilisation beaucoup plus mat que salon. Bon, après, avec les personnes dans la zone grise, on sait pas trop le pourcentage.
De ce que j'ai compris, d'après ce qu'a lu Médus sur le petit graphique du truc, c'est quand il disait joue exclusivement en nomade, c'est plus de 80% de l'utilisation en nomade.
D'accord. J'avoue que j'avais pas fait attention à cette partie-là. Et bon, je trouve ça plutôt intéressant pour savoir finalement comment utiliser la console. On voit que c'est un pari qui est plutôt réussi, puisque la console est utilisée dans ces deux modes de manière plutôt homogène. Et surtout, c'est en mettre en relation avec le... Alors, les chiffres sont que pour les États-Unis. Et globalement, les personnes qui ont acheté la console, ce sont principalement... Enfin, la majorité, ce sont des personnes entre 20 et 35 ans, et des hommes. Et c'est assez intéressant, puisqu'en fait, c'est à peu près en cette période qu'on commence à travailler, qu'on a quand même beaucoup moins de temps. Et donc, c'est une console qui s'adapte, mine de rien, pas mal à ce mode de vie, où on n'a pas forcément le temps de se poser chez soi pendant des heures à jouer à la console.
Effectivement, c'est ce qu'on disait à la sortie, c'est que c'est vrai que c'est un peu la console du jeune actif, finalement. Quelqu'un qui a envie de continuer à jouer aux jeux vidéo, de jouer à des jeux vidéo de grand, mais qui, malheureusement... à 2 heures de transport par jour parce qu'il a un boulot et pas forcément toujours beaucoup de temps pour jouer. Et du coup, le fait que tu puisses y jouer en nomade comme en salon fait que ça augmente ta capacité à jouer un peu n'importe où et surtout à reprendre ta partie sans te poser de questions de l'un à l'autre. Effectivement, du coup, ça veut dire que Nintendo a quand même frappé une cible, a vraiment bien visé sur sa cible et que ça a très 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 bien marché sur cette frange de la population. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à diversifier un peu pour arriver à taper un tout petit peu plus large.
Sachant qu'on a quand même une console qui n'est pas très adaptée à un public enfantin. Des gens qui pensent que Nintendo sortira quand la 3DS ne sera même plus vendable, une version de la Switch plus orientée pour les enfants.
Oui, une espèce de Switch compact ou de Switch mini qui serait sans Joy-Con détachable et ainsi de suite.
Enfin, c'est les choses dont on parle, ce qui serait évidemment pas déconnant pour toucher un public... jeune, et avec les consoles portables de Nintendo, on est habitué à avoir plusieurs modèles en fond pour toucher différentes cibles, et ça a plutôt, généralement plutôt réussi à Nintendo, donc ce serait pas surprenant que ça arrive à un moment ou à un autre.
En effet, je vais terminer ce petit tour de table de l'actu. Alors d'abord par vous révéler la superbe actu de Zergy, qui malheureusement ne pourra pas nous parler, il est vraiment totalement sous l'eau. Qui nous dit c'est enfin la mort définitive du Kinect, tant mieux. Et j'ai envie de rajouter, crève Kinect, crève, on ira tous chier sur ta tombe. Voilà, ça
le
fait
roi
plaisir.
En vive le roi.
Non.
On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance.
Alors si.
On est là pour lui défoncer sa mère à l'ambulance.
On est là pour défoncer l'ambulance parce que je vous rappelle que si 41 Wii U se sont vendus au Japon la semaine dernière, 4 Xbox One ont trouvé preneur.
C'est déjà trop.
Ouais, 10%.
C'est quand même à peu près ça. Non, je voudrais juste signaler un petit truc un peu alarmant, je trouve, un petit peu inquiétant. Rockstar vient d'annoncer que L.A. Noire qui sort sur Nintendo Switch dans une semaine ou deux, maintenant, peut-être trois. En fait, le jeu n'est pas, la version physique n'est pas à 100% sur la cartouche. Il faudra télécharger 14 gigas de données à côté, même quand on achète la version physique. Donc là, c'est pas juste un patch day one, hein, parce que 14 gigas, on télécharge, à mon avis, plus de la moitié du jeu. Et dans la foulée, un autre éditeur, je ne sais pas lequel, celui qui fait WWE 2018, alors WWE 2018, tout le monde s'en balance, hein, y a pas de souci. Mais sur celui-là, même sur la version physique, il faudra télécharger 24 gigas. Tout va bien.
Tout va bien, oui, effectivement.
Alors dans ce genre de situation, je vois pas bien l'intérêt de faire des versions physiques si au final on télécharge plus de 50% du jeu, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 24 gigas sur la cartouche. De deux choses l'une, soit il faut effectivement que les éditeurs tiers commencent à arrêter de faire l'épingle et achètent à Nintendo des cartouches de capacité adéquate pour leur jeu. Elle est noire, apparemment, le jeu en démat complet fait 30 gigas. Donc ça veut dire qu'il y a 16 gigas sur la cartouche et 14 gigas à télécharger.
Et donc ça rentre pas dans la console.
Et le pire, c'est qu'il y a quand même des cartouches de 32 gigas qui sont disponibles chez Nintendo. On sait que les cartouches de 64 gigas ne sont pas encore disponibles et seront probablement relativement chères comparativement. Par contre, les cartouches de 32 gigas, il y en a. Donc, en compressant un petit peu, il y avait peut-être moyen quand même d'arriver à tout faire tenir dedans. Déjà, je trouve ça un peu lamentable. On a appris aussi dans l'intervalle que Resident Evil Revelation Collection, qui sortira en physique au Japon et aux États-Unis, en réalité, la seule chose de physique qu'il y aura dessus, c'est Resident Evil Revelation 1. Pour le 2, ce sera un code de téléchargement qui sera dans la boîte. Donc, on est vraiment dans l'arnaque complète. Il y a un moment, messieurs, il va quand même falloir arrêter. Donc soit Nintendo va devoir peut-être baisser les prix de ses cartouches, ou baisser ses marges sur les cartouches, ou arriver à trouver d'autres revendeurs ou d'autres fabricants, quelque chose comme ça, mais il va vraiment falloir trouver une solution à ça, parce que autant Doom, la solution plutôt logique était de dire je mets le solo et je mets le multijoueur en téléchargement, ce qui à mon avis n'était pas idiot, mais là quand tu achètes un jeu physique et que tu n'as même pas le jeu en entier, ben, je suis désolé, mais moi, du coup, je l'achète pas. C'est très con, j'attendrai un L et Noir édition, la vraie complète, Gothic, qui marche. Ou, effectivement, un Resident Evil Revelation Collection, dans lequel il y a tout. Parce que je trouve ça tout à fait lamentable comme pratique. Voilà, on savait que, par exemple, je sais que Lego City Undercover... Lego City Undercover, il y avait écrit pendant un moment à l'arrière de la boîte, attention, nécessitera le téléchargement de 20 gigas, machin. Et en fait, pas du tout... L'éditeur avait dit après non, c'est une connerie, on a réussi à trouver un arrangement avec Nintendo, on a mis des cartouches de 32 gigas, tout le jeu est sur la cartouche et il n'y a pas de souci. Donc voilà, je comprends pas pourquoi les autres font pas l'effort. Puis ils font probablement pas l'effort parce que c'est des connards.
Oui. C'est à peu près sérieux, mais non. Non, mais c'est à mon avis, ouais, c'est ça, c'est surtout les marges. Parce que mine de rien, les cartouches, ça doit pas valoir si cher que ça, parce que...
Alors, ça vaut toujours plus cher à fabriquer qu'un vulgaire Blu-ray. Faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je pense que fabriquer un jeu PS4 sorti d'usine, si ça coûte plus de 3 ou 4 dollars, ça doit être le bout du monde. Boîte comprise. Hein.
Ah ouais. D'accord.
Ça coûte vraiment pas grand-chose. À mon avis, une cartouche, on doit plus être aux alentours de 10-12 dollars.
Et je sais pas, peut-être, est-ce que le fait, parce que à l'époque, sur Nintendo 64, etc., les jeux, ils sortaient des usines des fabricants tiers, ou c'était les usines de Nintendo ?
Alors, à l'époque, c'était très compliqué, je voulais faire un petit article là-dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant, très peu de gens savent comment ça fonctionne. En réalité, ce qui se passait à l'époque de la N64, mais alors là on parlait de cartouches, c'est-à-dire qu'ils coûtaient encore plus cher à produire parce que tu avais une vraie PCB à produire avec des vraies puces dessus. Là, basiquement, une cartouche de Nintendo Switch, c'est une carte SD. Hein. Ni plus ni moins. Il y a de la mémoire flash, il y a un petit système de chiffrement dessus, et c'est à peu près tout. Donc c'est pas non plus... Enfin bon, c'est quand tu vois combien coûte une carte SD de 32Go aujourd'hui pour le grand public, c'est-à-dire avec les marges, la TVA, l'expédition, le bordel, le truc, je me dis que ouais, 10-12 dollars, c'est vraiment une estimation très pessimiste d'une cartouche de 32Go, quoi. Mais effectivement, à l'époque, seul Nintendo produisait les cartouches, et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'un éditeur tiers venait voir Nintendo, tapait à la porte et disait, ben voilà, j'estime que je vais vendre 150 000 exemplaires de mon jeu, donc s'il vous plaît, produisez 150 000 cartouches pour moi. Voilà. Et après, tu te démerdais pour les écouler. Ce qui fait qu'il y a certains éditeurs qui se sont très largement planqués, c'est comme ça qu'on trouve encore très très facilement de nos jours des cartons complets du jeu Mission Impossible sur N64. Parce que les mecs se sont totalement chiés dessus, ils en ont commandé beaucoup trop par rapport à ce qu'ils ont réellement réussi à vendre, et donc on en trouve encore. Ça fait aussi que t'avais une réduction de prix à partir du moment où t'en commandais beaucoup. Donc quand tu commandais 100 000 cartouches à Nintendo, t'avais pas tout à fait la même réduction que quand t'en commandais 1 million. Mais le problème, c'est qu'il fallait effectivement que le service marketing se plante pas. Et donc en réalité, si Nintendo s'est fait bâcher à l'époque de la PlayStation pour son support cartouche, c'est pas tellement pour le coût du support cartouche en lui-même, c'est plus pour le coût de ce système-là. C'est-à-dire qu'il fallait l'éditeur, c'était très compliqué d'aller faire une réédition d'un jeu, parce qu'il fallait de nouveau commander X milliers d'exemplaires, mais il fallait le commander à l'avance, en faisant une avance de trésorerie, il fallait être certain que tu puisses de nouveau les écouler, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir rééditer un jeu, il fallait vraiment avoir une très forte demande, et c'était pas évident du tout. Voilà. Ça, c'est pour la vraie explication. Le problème n'était pas vraiment le prix des cartouches en elles-mêmes, mais plutôt le système de licensing de Nintendo et de commande de cartouches, qui est quand même extrêmement contraignant. Pendant ce temps-là, du côté de Sony et de la PlayStation, Sony, en gros, signait ton master de ton jeu, c'est-à-dire tu lui donnais le code de ton jeu, il signait le master CD de ton jeu, et t'allais voir, en fait, un fabricant de CD de ta région. Alors c'est pas comme les filles de ta région, hein. C'est un fabricant de CD local qui était certifié par Sony et qui pouvait te faire l'impression complète de ton jeu. Donc c'est pas Sony qui les fabriquait eux-mêmes, ils avaient des partenariats avec effectivement des fabricants de CD tout autour du monde, donc ça te coûtait pas cher et en plus tu t'arrangeais avec le fabricant pour régler tes commandes comme tu le souhaitais. Voilà. D'accord. J'espère que c'est plus clair. Ouais, aujourd'hui, ouais. Je ne sais pas du tout comment fonctionne Nintendo pour la Switch. Je suppose que ça doit encore être un système de commande à la con qui fait que... Enfin, voilà. Bref. D'accord. Je voulais faire une autre petite nouvelle, mais on va commencer à être un petit peu court. Donc, du coup, c'est pas grave. Je la retarde à la semaine prochaine. C'est pas forcément quelque chose de très important. Nous allons nous écouter un petit morceau de la BO de Super Mario Odyssey, même si cette émission n'y est pas consacrée. Elle y est directement liée. C'est, je trouve, le meilleur morceau de la BO de Super Mario Odyssey parce qu'il est juste complètement magique. C'est le truc qui est dans le royaume des légumes et des fourchettes et des machins que je sais plus comment il s'appelle. C'est le pays de la bouffe.
Il s'appelle la France.
Je pense que c'est la France, surtout quand t'écoutes ce thème-là, tu te dis non, c'est pas possible, les gars, vous avez bien chié dans la colle, il y a de l'accordéon, il y a tout ce que tu veux, c'est vraiment. C'est assez extraordinaire.
Koizumi avait dit que le niveau de la bouffe était inspiré de toute l'Europe latine, donc Espagne, Italie, France, pour tout ce qui était visuel, musique et des idées.
Bah écoute, là ça se voit, on va donc s'écouter le Mount Volbono Town. C'est un morceau qui dure un tout petit peu plus de 3 minutes. Ah, tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et donc nous allons parler des Mario 3D, ou plus exactement des mécaniques des Mario 3D. Alors je précise que lors de la préparation de cette émission, j'ai dit, ben voilà, les Mario 3D, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario 3D Land, Mario 3D World.
Les Mario en 3D quoi.
Les Mario en 3D quoi. C'est facile. Et si Arcadia, hop, Mario 3D Land, Mario 3D World, c'est pas des Mario en 3D. Pardon. Bah attends, il n'y a pas de drapeau au bout. Ah, putain les gars, donc...
Il y a un drapeau au bout, justement.
Alors il y a un drapeau au bout, donc c'est pas un Mario en 3D, je tiens vraiment. Ok, donc Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario 64, Mario Odyssey, tout ça, ça on peut. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui fait hop, 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 hop. Mario Galaxy, c'est pas officiellement un Mario en 3D exploratif. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Donc voilà, donc au final, on a repris la définition exacte, officielle, canonique de Nintendo. Donc les Mario en 3D exploratif, voilà, officiellement chez Nintendo, c'est Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Odyssey. Ta gueule. Sonic Forces, dont je rappelle, le prix est passé de 50€ en précommande à 24, ce qui est toujours une très très bonne nouvelle.
Qui est toujours une baisse moins flagrante que Battle Knight. Non, c'était quoi ? Si, c'était Battle Knight.
Battle Chaser Night War.
Non,
pas Battleborn.
Battleborn, voilà. Qui est passé de 50€ à approximativement gratuit en 3-4 mois, je crois. Personne n'en a jamais parlé. Donc du coup, bon voilà quoi. Le prix a dégringolé.
Bref. Donc les Mario. Donc Mario 3D, officiellement Nintendo dit ça. Ça veut dire que Mario Galaxy, c'est des Mario 3D, mais pas exploratifs. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'éléments de collection, véritablement, dans les Mario Galaxy.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étoiles à récupérer ou de poussière d'étoiles qui pourraient servir à débloquer des niveaux ?
Moi, ce que j'ai compris, mais c'est vraiment juste ça, c'est qu'en fait, Nintendo avait fait une espèce de classification où il te disait, voilà, les Mario 3D, en réalité, c'est les Mario dans lesquels, effectivement, tu as un objectif à chaque fois dans le niveau. C'est la structure de Super Mario 64, c'est ça. Tu débarques dans un niveau, tu sélectionnes une étoile, ça va te donner un objectif. Aller battre tel boss, aller atteindre tel morceau de niveau, t'expulser dans un canot de telle manière et tout ça. Et tu as à côté un élément de collection qui est bah, je collecte les 8 pièces rouges, j'ai une étoile, je collecte 100 pièces, j'ai une étoile, etc. etc., etc.
Plus après d'autres étoiles que tu peux débloquer dans le monde, même si tu l'as pas sélectionné au début.
C'est là où j'ai un petit doute parce que pour moi dans Super Mario 64, tu peux effectivement aller récupérer une étoile que t'avais pas sélectionnée au début. Donc ça c'est le côté effectivement tu tombes dessus, tu peux la récupérer. Mais derrière ça te fait quand même sortir du niveau.
Oui.
C'est-à-dire que tu continues pas à jouer. T'as finalement accompli un objectif qui n'était pas celui que t'avais sélectionné. Mais parce que le truc est entre guillemets plus ou moins ouvert. Mais malheureusement, tu vas quand même, voilà, tu vas récupérer ton étoile, tu sors du niveau, et du coup, tu es obligé de recommencer le niveau à zéro pour aller récupérer l'étoile que tu es censé aller récupérer. Et dans Super Mario Sunshine, tu as en plus des pièces rouges, des pièces rouges, la shine des 100 pièces, tu as également les pièces bleues qui sont une horreur, mais qui sont aussi du collecter le plus de pièces bleues possible dans un niveau pour pouvoir, à chaque fois que tu as 20 pièces bleues, aller t'acheter une shine au port. Tu vas voir Jean-Michel Étoile qui te vend parce que c'est un connard du coup qui veut pas du tout t'aider à sauver l'île Delfino. Il te prend des pièces bleues, de l'argent, donc de la monnaie durement gagnée pour te donner des shines qu'il a donc à l'arrière de son magasin et qui pourrait sauver l'île, mais non, il veut pas.
Il en a pas 2 ou 3, il en a 24 de mémoire.
Putain la vache, je savais plus qu'il y en avait autant. Ça veut dire qu'il y a 480 pièces bleues à trouver dans le jeu.
Ouais, un truc comme ça. Je sais plus si c'est 24 ou 20, mais il y en a un bon paquet, en fait.
Putain, c'est atroce. Je m'étais pas rendu compte à quel point il y en avait.
Donc, en fait, ils sont arrivés à faire un certain nombre de soleils. Ils se sont dit, on n'a plus d'idées et on n'a plus de temps aussi.
Eh bien,
Michel, mets-nous un truc à la con.
Voilà. Et donc, je comprends pas trop, parce que finalement, dans Super Mario Odyssey, alors c'est pas le thème de cette émission, c'est juste pour replacer les choses dans leur contexte. Les lunes que tu connectes, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on ferait dans un Banjo et Kazooie, où finalement, tu vois un truc bizarre, tu y vas, bah, t'as une pièce de puzzle, t'as des notes, t'as un Jinjo, t'as... Voilà, tu vas accomplir des actions pour aller faire ça, et ça, finalement, ça n'interrompt pas le niveau. Tu récupères une lune, et tu passes ton temps à récupérer des lunes en allant à droite à gauche. Je trouve que Super Mario 64 et Super Mario Sunshine ont des mécaniques qui, finalement, un petit peu différentes. Mais, enfin voilà, la classification officielle de Nintendo, c'est ça, donc c'est à ça qu'on va se tenir. Je vous propose de commencer par Super Mario 64, avec Donc cette structure-là, c'est effectivement, tu rentres dans un niveau, il y a une étoile, c'est l'objectif, et finalement, tu as un niveau qui est assez, assez ouvert dans le principe, parce que, comme disait Drosgar, tu peux aller récupérer une étoile que tu n'avais pas du tout l'intention d'aller chercher au départ, tu peux juste tomber dessus en te disant, tiens, je vais là, et puis en fait, pouf, je récupère une étoile. Ça pose aucun problème. Mais t'as aussi des étoiles bien déterminées, t'as des trucs un peu, petit peu plus compliqués à faire, et il me semble, dites-moi si je me trompe, que la première étoile de chaque monde, ça consiste en général à aller atteindre le plus haut niveau du monde, ou un truc comme ça, c'est-à-dire à aller essayer d'aller jusqu'en haut du monde pour faire de la grimpette, quoi.
C'est pas le boss, non ?
C'est plus, ça dépend les niveaux, en fait. Par exemple, à la montagne, le niveau 4, tu commences tout en haut du niveau et il me semble que l'étoile, c'est de ramener le pingouin tout en bas. Un truc comme ça.
D'accord, mais en fait, le principe, c'est quand même...
Non, c'est le bonhomme de neige. Je sais plus quoi la première.
Mais pour moi, c'est quand même de marcher dans le premier niveau à chaque fois, quoi.
Pour moi, le principe de la première étoile dans Super Mario 64, c'est toujours de te forcer, entre guillemets, à explorer un peu le niveau. C'est-à-dire de te forcer à aller d'un point A à un point B. Je pense au monde de lave, par exemple, où il faut que tu ailles battre le boss qui est à l'autre bout du niveau. Donc tu es obligé d'aller parcourir le niveau dans l'ordre prévu pour aller jusqu'au boss de fin du niveau, lui latter les couilles. Tu récupères la première étoile, et derrière, effectivement, le deuxième objectif, comme tu as vu à peu près tout le niveau, on te dit le puzzle buzzer à tel endroit, tu te dis « Ah oui, tiens, c'est là », et puis tu y vas. J'ai l'impression que la mécanique, c'est ça, essayer de guider le joueur dans le niveau dans un premier temps pour le faire découvrir le niveau, les mécaniques, comment ça marche, et ensuite le laisser, entre guillemets, explorer, même si l'exploration, elle est quand même très guidée.
C'est vrai que c'est un petit peu ça, la première étoile, c'est souvent, tu te balades, on t'envoie assez loin dans le niveau. Et ben, le plus évident, c'est dans le premier niveau, où au départ, on te dit « Hey, il y a un mec au sommet de la montagne que tu vois au loin, et ben, t'y vas, quoi. » Et t'as un chemin qui est tout beau et qui te permet d'y aller.
Puis même le deuxième niveau, l'espèce de château suspendu machin, où effectivement on dit faut monter tout en haut. Voilà.
Et surtout il y a un truc qui était très bien, c'est que non seulement ça te faisait éviter le niveau, mais en plus à chaque fois que tu lançais l'étoile, tu avais une espèce de cinématique qui te montrait un petit peu ton objectif. Enfin... semble que c'était ça, c'est que tu avais quand même une petite introduction au niveau. On ne donnait pas toutes les solutions, mais ça te disait typiquement le roi Bobo au sommet de sa colline, il avait une espèce de panorama pour te montrer où il était, quoi. Donc tu te voyais où était ton objectif.
Bah oui, puisque je rappelle que 1996, les jeux en 3D, c'était pas forcément très 1995, même au Japon d'ailleurs, c'était pas forcément quelque chose de très commun. Et autant dans un Mario en 2D, finalement, tu vas de gauche à droite, éventuellement de haut en bas, mais dans un objectif très linéaire. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à la fin du niveau, et c'est, entre guillemets, simple. Alors, Super Mario World avait inclus des sorties secrètes, c'est-à-dire si tu fouillais un peu plus les niveaux, tu pouvais trouver éventuellement d'autres choses, mais globalement, l'objectif, c'était quand même toujours à peu près d'aller de gauche à droite. Dans un monde en 3D, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'effectivement, on te donne un point à atteindre, il y a éventuellement plusieurs chemins pour pouvoir l'atteindre. C'est pas le cas du premier niveau d'ailleurs, il n'y a qu'un seul et unique chemin pour arriver tout en haut. Mais il me semble qu'il y a d'autres niveaux dans Super Mario 64, je pense au désert notamment avec la pyramide, où pouvoir atteindre la première étoile, qui, si je dis pas de conneries, est celle qui est dans la pyramide.
Ouais, en fait, faut que je fasse péter le toit.
Oui, je crois que c'est ça. Mais du coup, t'as pas plusieurs manières de faire pour faire péter le toit, mais pour atteindre cet endroit-là, t'as plusieurs méthodes pour pouvoir y aller, déjà. Ce qui fait que le truc est un petit peu plus ouvert que les premiers niveaux, où effectivement, il y a... Enfin, l'espèce de château, là, je sais plus comment s'appelle le niveau, je suis désolé. La montagne, le château, le machin, le tout premier niveau, bah finalement, t'as qu'un seul moyen pour arriver jusqu'au bobombe qui est là-haut, puisque tous les canons, par exemple, sont fermés. Donc tu peux pas aller t'éjecter pour aller jusque-là. T'es vraiment obligé d'aller suivre le chemin prédéfini. On te prend pas par la main parce que finalement, on te laisse te démerder quand même. Mais globalement, comme il n'y a pas 50 solutions, tout le monde fait la même chose sur le premier niveau, quoi.
Ouais, souvent, en fait, à partir de la deuxième, troisième étoile, il y a des choses qui se débloquent. C'est le cas dans Mario Odyssey aussi. Mais t'as aussi cette notion de... certaines étoiles ne peuvent être trouvées que lorsque tu fais l'objectif spécifique sur la carte du monde. Souvent les étoiles des boss, évidemment, mais dans la tour Womp, le deuxième niveau, En fait, tant que t'as pas battu le boss de la première étoile, t'as toute une partie du niveau qui n'existe même pas et qui n'apparaîtra que après où tu devras à nouveau y retourner. Et c'est souvent comme ça que fonctionnent les. Ça fonctionne beaucoup comme ça sur les premiers niveaux. Je trouve que c'est un peu moins le cas par la suite, par contre.
Bah, c'est. Ça doit être. Enfin, je suppose que c'est aussi un choix de design. C'est-à-dire, finalement, on te force, entre guillemets, à explorer le niveau. On te dit, voilà, tu vas là. Effectivement, même dans le premier niveau, il me semble que c'est une fois que tu as battu le roi Bobombe que les Bobombes peuvent ouvrir les canons qui font que tu vas pouvoir faire un petit peu n'importe quoi.
Oui, c'est ça.
Et donc oui, on te force à explorer le niveau une première fois, c'est-à-dire à le parcourir d'un point A à un point B finalement, façon Mario 2D, quoi, de manière très linéaire. Il faut que tu ailles là. Une fois que tu seras là, tu feras ça, et tu récupéreras la première étoile. Et une fois que tu as récupéré cette première étoile, à ce moment-là, ça débloque d'autres objectifs, et là, le jeu est un petit peu plus ouvert. Même si, enfin, je sais pas, Super Mario 64, j'ai pas l'impression qu'on était particulièrement encouragé à faire les étoiles dans un certain ordre. Mais quand tu sélectionnes une étoile, au moment d'entrer dans le tableau, tu sélectionnes une étoile, t'as quand même une indication. Parce que chaque étoile a un nom, enfin, un nom, un ouais, objectif.
C'est ça. Pas plus comme un indice pour pas qu'on soit totalement perdu, mais en fait, une fois dans le niveau. Enfin, t'as même des étoiles qui sont accessibles, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on t'a dit. Mais il faut quand même connaître un peu. Enfin, il faut soit l'avoir déjà fait, soit avoir eu les conseils d'un pote, machin, parce que il y a certaines étoiles qui sont tout seul. Pas tout seul, j'entends la première fois qu'on fait le jeu, sans avoir regardé les vidéos, etc. Pas possible de savoir sans indication. Pas possible de connaître sans indication. Je pense à la celle avec les canons. Je crois que dans le premier monde, parce que c'est celui que j'ai fait, normalement, quand t'as fait la première étoile, je crois que c'est les canons qui se débloquent.
C'est donc ça, oui. Les canons se débloquent après la première étoile.
Ouais, en parlant la bobombe. Et il y a une étoile qui est sur une île au-dessus, mais elle est de telle manière à ce que tu puisses pas la voir depuis le sol. C'est l'étoile, hein, j'entends.
C'est-à-dire oui, qu'il faut tout à
vraiment,
fait.
Il faut vraiment que tu saches, une fois dans le canon, qu'il faut aller sur cette, île pour avoir l'étoile. Sinon, c'est pas possible. Et le nom de l'étoile, dans ce cas-là, pour moi, est plus un indice pour te dire. Donc, tu choisis d'entrer dans le niveau. Dans ce niveau, voilà un indice pour une étoile. Mais après, quand t'es dedans, en fait, tu te débrouilles, quoi, à partir de la première étoile. T'as tous les chemins ou presque qui sont ouverts, donc si tu connais un peu le truc ou si t'explores tout simplement, bah tu peux en trouver d'autres.
Tout à fait. Maintenant, t'as le côté. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a effectivement des étoiles que tu peux pas deviner. Je pensais plus à la tour Womp, effectivement, où il y a une des étoiles. Alors, pas d'alerte au spoiler hein, sur un jeu qui a 20 ans, faut quand même pas déconner. Mais il y a une des étoiles, tu sais, qui consiste à se projeter en canon contre. Une paroi.
Contre le mur, oui, voilà. je vois exactement.
C'est
ouais.
Le truc.
Sur la partie gauche du niveau.
Exactement, c'est le truc, elle est absolument pas visible. Il n'y a aucune indication particulière qu'il y ait une étoile, donc effectivement, le seul moyen d'arriver à le savoir, c'est d'avoir cet indice. A contrario, il y a d'autres étoiles dans Super Mario 64, je pense surtout au dernier niveau, où en fait, si t'as la curiosité d'aller voir un certain truc, ton île flottante, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tu dis, ah, tiens, il y a une île qui flotte, si j'allais jeter un œil dessus, tu pourrais très bien la trouver. Un peu par hasard.
Ouais, c'est vrai. Tout.
Par contre, il y en a que tu peux effectivement absolument pas deviner qu'il y a une étoile à la clé. Et que le taquin qui est dans le monde de lave, ça paraît évident qu'il y a une étoile à gagner parce que de toute façon, t'as vraiment un truc à faire spécifique avec les pièces rouges, tout ça, pour gagner une étoile. Donc celui-là, il est juste comme le nez au milieu de la figure. Et il y en a d'autres que je trouve mais totalement abscons où effectivement... Bah, si tu le sais pas, je vois pas comment tu fais. Quoi. Et je pense que le monde des bouts est aussi assez symptomatique de ça.
Là, il est vraiment
indice,
horrible.
Bah oui, voilà, sans indice, bah il y a des trucs, je vois pas comment tu fais pour le deviner. Hein.
Après, il y a certaines étoiles qui sont là purement pour récompenser pas tant l'exploration que l'expérimentation. Je pense à l'étoile dans le... C'est le deuxième monde, le monde de la neige ?
Non, c'est le quatrième.
C'est le quatrième.
Ah, le quatrième. Oui, parce que les autres m'avaient saoulé, donc du coup j'ai pensé à celui-là. Où typiquement la course, si on la finit une fois, on a une étoile, et si on la finit en moins de, je crois que c'est 2 minutes, non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est
un... Faut que tu battes un pingouin en fait. C'est que t'as deux versions, t'as la version normale où faut arriver en bas et t'as un bloc qui est cassé. Et t'as la version où tu fais la course contre un pingouin.
Ouais, non, mais il y en a une autre où si il y en a vraiment une, c'est de la rapidité, je crois.
Ah, c'est pas un niveau à part entière, c'est un des niveaux bonus.
Non, je crois pas. Hein. Non, c'est dans. Ah bon?
C'est la descente qui se trouve derrière la porte à une étoile au rez-de-chaussée du château, enfin au premier étage du château de Peach. Il y a une version où faut taper le bloc à la fin et l'autre faut que tu finisses en une 10 ou un truc comme ça.
Ouais, ça doit être ça. Mais en tout cas, celle-là c'est purement de l'expérimentation quoi. Ou alors, enfin, dans ce cas-là, si je me trompe, si c'est pas dans le même, d'accord, bon, je dis de la merde. Mais je me rappelle, enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a, il y en a d'autres quoi, même ne serait-ce que celle de la. Enfin, de l'île, quoi, ça encourage typiquement juste l'expérimentation. Et c'est ça qui est cool, quoi, qui fait l'exploration en soi.
Il y a un certain nombre d'étoiles que tu trouves au bout d'un moment. Autant sur les premiers niveaux, on est finalement relativement guidé là-dessus. Et surtout que la première fois que tu joues, tu découvres. Hein, c'est vraiment. Tu te rends compte qu'il y a effectivement des étoiles planquées un peu partout. Mais je trouve que sur les derniers niveaux, même moi, la première fois que j'y ai joué, en 1996, donc. Parce que je suis vieux.
J'étais pas né.
Eh bien, écoute, moi j'étais né et je te torchais déjà le cul.
Ok.
Mais la première fois que j'y ai joué, c'est vrai que c'est quand tu commences à prendre un peu la confiance, que tu commences à bien maîtriser les mouvements de Mario, parce qu'il y a ça aussi, à bien maîtriser l'environnement 3D. C'est-à-dire, ça a l'air con comme ça, mais le fait de maîtriser la caméra et de pouvoir aller. Regarder en haut, regarder en bas, en n'étant pas tout à fait la première personne, parce que en fait, quand tu peux tourner la tête de Mario, tu t'es en vue casquette, en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais t'es pas véritablement en vue à la première personne. Je trouve que à partir du, je sais pas, 3, 4, 5e monde, on commence à être beaucoup plus à l'aise avec la 3D, à se dire, tiens, je peux jeter un œil là, je peux aller regarder là, je peux aller faire ça. Et c'est vrai qu'on commence à plus trouver des trucs curieux dans le décor et à se dire, tiens, il n'y a pas quelque chose par là. Et à le défoncer, à se dire, ah bah oui, tiens, il y a un bout de monde secret, j'avais pas vu. Alors que sur les premiers niveaux, t'as tendance à beaucoup te reposer sur les indices qu'on te donne. Je pense à un truc tout bête, le niveau du désert, donc. Il y a, je crois que c'est la 2e ou 3e étoile qui s'appelle « À l'intérieur de la pyramide ». Moi, la première fois que j'ai joué, j'avais aucune idée qu'il y avait un truc à l'intérieur de la pyramide, quoi. Je m'étais juste dit, voilà, c'est le niveau du désert, il y a ça, pff, le reste, que dalle, quoi. Et quand le truc te dit à l'intérieur de la pyramide, tu dis, putain, il y a une entrée dans la pyramide, et en fait, il y a un 2e morceau de niveau à l'intérieur de la pyramide, qui est complètement déconnecté du niveau extérieur. Et finalement, le jeu fait quand même pas mal ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, c'est vraiment sur les premiers niveaux, tu te laisses un peu guider. Et ça devient pour moi un Mario exploratif à partir du moment où tu vas pouvoir réellement commencer à expérimenter. Donc ce que tu disais, hein, Galaxies, l'expérimentation comme récompense, c'est plutôt sur les derniers niveaux où tu vas plus aller tenter des trucs en te disant « Ouais, mais là, il y a forcément une étoile, il y a un truc là. »
Après, les derniers niveaux de 64, et vraiment les deux derniers qui sont la route arc-en-ciel et l'horloge, c'est des niveaux qui sont super linéaires quand tu y repenses. Parce que globalement, la route arc-en-ciel, il n'y a pas de... T'as que des chemins, en fait. Tu sors du chemin, tu tombes dans le vide. Et l'horloge, c'est pareil. Tu commences en bas, tu dois monter en haut, et toutes les étoiles sont à un stade précis de l'horloge. Et c'est un peu le paradoxe de cet épisode, c'est que les derniers niveaux, finalement, ils sont pas du tout exploratifs, ils sont extrêmement linéaires. Et on a une tendance un peu à l'oublier parce que les premiers sont vraiment ouverts, mais les derniers niveaux, tu sors du chemin, tu meurs, généralement.
Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est, en y repensant, là, comme ça, comme tu le dis, c'est quand même très bizarre. Est-ce que ça voudrait dire que les derniers niveaux ont été un peu rushés en fin de développement? Ou est-ce que simplement c'est un choix de design?
Je pense que c'est un choix de design, parce que ça reste quand même des niveaux plutôt bien faits, mais c'est vrai que, surtout en plus, ils sont globalement dans la même pièce. Je pense qu'ils ont été plus ou moins liés. D'un point de vue difficulté, enfin tu vois, c'est pas un niveau qui ils sont été placés là au hasard. C'est vraiment les deux derniers niveaux, ceux qui a du challenge et qui mine de rien te prépare pas mal à ce que donnera le tout dernier niveau du jeu qui est le Boozer des cieux. qui est vraiment de la pure plateforme. Parce que ça, d'ailleurs, faut rappeler que tous les niveaux de Bowser dans cet épisode, c'est de la plateforme pure. Qu'on aura plus tard dans Galaxy ou 3D World.
Oui, c'est vrai que c'est quand même... Oui, effectivement, je suis d'accord, les niveaux de Bowser, c'est vraiment de la plateforme pure, c'est-à-dire, c'est, je vais pas dire juste du skill, mais là, on n'est plus dans l'expérimentation, le droit à l'erreur ou les trucs comme ça. Là, c'est vraiment, faut passer point trait. Pas plus que ça.
Après, tu peux expérimenter, mais c'est comme tous les Mario, parce que Mario 3D notamment, c'est que t'as une très grande palette de mouvements et tu vas avoir pas mal de possibilités. Globalement, t'as un chemin qui est prédéfini, tu peux couper si t'y arrives, et t'as pas plusieurs chemins en fait sur ces niveaux.
Et voilà, t'as pas vraiment le choix. Effectivement, quand t'as, je sais pas, une espèce de plateforme rotative machin, bah faut que t'arrives à passer au-dessus de cette plateforme rotative parce que t'as pas le choix. Tu peux pas vraiment. Tu peux zapper des portions de niveau quand t'es un très 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 bon joueur, mais on va dire que c'est pas le joueur normal, et c'est pas comme ça que les niveaux ont été designés non plus.
Je voudrais peut-être aussi rappeler un point important de ces jeux, parce qu'on a beaucoup parlé des niveaux en eux-mêmes, mais contrairement au Mario précédent, où on avançait sur une carte, on est d'un niveau à l'autre, là ici on est dans un hub dans lequel on va aussi progresser et il y a beaucoup de choses cachées. En fait, faut pas oublier que je pense qu'une quarantaine d'étoiles dans Mario 64 ne sont pas dans les niveaux, mais dans des niveaux cachés, une ou deux étoiles et beaucoup de... des phases de plateforme très courtes ou des niveaux légèrement ouverts où il y a des pièges rouges récupérés souvent.
Effectivement, et moi je me suis très souvent demandé, je sais pas, il n'y a pas de source officielle qui le confirme ou qui l'infirme, mais je me suis très 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 longtemps demandé si à l'origine du design du jeu, les mecs n'avaient pas juste prévu qu'on puisse explorer le château de Peach point trait. Parce qu'il y a tellement de choses dedans que finalement, je me dis, ils auraient pu sortir un jeu quasi complet avec juste ça. Et ça aurait pu effectivement fonctionner, c'est-à-dire avoir des espèces de micro-challenge de temps en temps, et avoir surtout dû explorer le plus possible à l'intérieur du château de Peach. Ce qui n'a pas forcément été idiot d'ailleurs, hein. Mais voilà, quand tu te... je me suis toujours questionné là-dessus. Un jour, il faudra que j'aille poser la question à Tonton Koizumi en lui disant « Bah, hey, gros, allez, dis-nous, au départ, c'était juste le château de Peach. » Sans déconner. Ce qui nous amène d'ailleurs... au deuxième jeu exploratif 3D officiel Nintendo, tout ça. Hein, je rappelle que...
Mario Bros.
La timeline officielle de Mario. Super Mario Sunshine. Donc Mario part en vacances sur l'île Delfino. Et finalement, tu retrouves une structure à la fois proche de Super Mario 64, mais pas tout à fait. La structure générale du monde, c'est effectivement, tu as la place centrale de l'île Delfino qui te permet d'accéder... comme une sorte de hub aux autres niveaux, mais les autres niveaux ne sont pas dans des tableaux, donc totalement déconnectés du monde dans lequel tu es. Hein. Super Mario 64, tu rentres dans un tableau, tu rentres dans le monde de neige, le monde de ci, le monde de mi. Donc les mondes sont extrêmement variés, mais extrêmement déconnectés. Là, tu es dans un Mario qui est, d'un point de vue design, ou en tout cas volonté de design, qui pourrait quasiment être comparé à un open world, parce que quand tu es sur la... dans le parc Pigna, je crois.
Ouais, en fait, tous les niveaux que tu visites, en fait, c'est des lieux de l'île Delfino.
Exactement. Donc, il aurait pu y avoir un semblant de méta-niveau qui permette d'aller directement de A à B. À la place, tu as cette espèce de hub de la place Delfino, ce qui fait que le jeu est une espèce d'hybride un peu bâtard. C'est-à-dire, tu sens que les mecs avaient peut-être voulu faire une espèce d'open world parce que tous les niveaux sont placés correctement sur la carte. Mais en même temps, ils n'avaient peut-être pas trop les moyens de le faire. C'est aussi ce qu'on a beaucoup reproché au jeu, c'est que finalement, comme tout se passe sur l'île Delfino, c'est ambiance vacances pendant tout le jeu, t'as beaucoup moins de variété que sur Super Mario 64, où effectivement t'avais le monde de lave, le monde de glace, le monde de ci, le monde de mi. C'est ce que Super Mario Odyssey va arriver à rebalancer en te faisant parcourir le monde, donc là du coup, pas de problème, la variété il y en a. Donc Super Mario Sunshine, moins de variété, mais finalement un fonctionnement assez similaire, hein. Au moins sur les premiers niveaux.
Globalement la même chose, je dirais même qu'ils vont même plus loin que 64, c'est-à-dire qu'on avait parlé des étoiles indices. En fait, j'avais parlé de la cinématique qui montrait les étoiles, il me semble que dans 64 il n'y en avait pas, en fait, je crois que je me trompe. Mais dans Sunshine, toutes les introductions d'étoiles commencent sur une petite scène qui montre un petit peu ton objectif. Et surtout,
il te montre le chemin pour y aller aussi.
Aussi.
64 aussi.
J'ai un doute.
Sur N64,
dans 64, moi j'ai le souvenir, mais après il est peut-être biaisé parce que dans le seul autre Mario 3D que j'ai fait, c'est Mario Galaxy, et dans celui-là il y avait. Donc peut-être que mon souvenir est biaisé, mais j'ai le souvenir aussi d'une petite cinématique.
Un petit mouvement de caméra qui amène par exemple sur le roi Bobombe ou ce genre de choses. Après c'était léger, hein, mais...
Mais pour moi, tu voyais... Hop, pardon. Tu voyais une partie de ton objectif au moins sur Super Mario 64, mais effectivement, tu me fais douter, je me demande si c'est pas un...
J'ai pas joué à la version 64, donc...
Faudrait lancer
la version DS
un...
et la version 64 sont strictement identiques.
D'accord.
C'est moins maniable.
C'est moins maniable, ça dépend. Si tu joues à l'écran tactile, c'est très maniable.
Pas autant qu'avec un stick 64 quand même.
On est bien d'accord.
Et bon, pour revenir à Sunshine, en fait, ouais, il y a... Pour le coup, chaque soleil, c'est un objectif particulier. Et pour pouvoir l'obtenir, il faut... il faut choisir ce soleil particulier pour pouvoir le faire. C'est pas comme Mario 64 où t'en avais quelques-uns que tu pouvais choper sur ta route sans faire exprès. Genre les pièces rouges, t'as une zone de pièces rouges, bah j'y vais et puis au final tu récupères l'étoile et tu retournes faire ton objectif de base après. Là tu peux pas dans celui-là.
C'est-à-dire que effectivement les pièces rouges n'apparaissent pas du tout si t'as pas sélectionné le soleil des pièces rouges.
Voilà, ce qui rend du coup le jeu. On est toujours dans des niveaux d'exploration, mais du coup, dans son déroulement, il est beaucoup plus linéaire que 64. Tu avais vraiment le choix de gruger un soleil ou d'aller faire autre chose. Ce n'est pas le cas dans Sunshine, qui en plus a une autre contrainte, c'est que pour arriver à la fin du jeu, il ne faut pas un nombre de soleils précis, il faut avoir obtenu des soleils précis, qui sont, le soleil 6 de chaque niveau. Qui consiste à chaque fois à battre Anti-Mario en lui arrosant le derche, ce qui en plus rend la chose un peu répétitive.
Ah, je me souvenais plus de ce détail-là, parce qu'effectivement, sur Super Mario 64, il faut avoir, je crois que c'est au minimum 70 étoiles ou 60 étoiles pour voir la fin du jeu.
Ouais, je crois que c'est 60, enfin, c'est un peu plus sur 3 DS, mais...
Ça dépend de la fin, hein, je crois, parce que... par rapport, tu sais, il y a différents speedruns en 120 machin, et à chaque fois ils arrivaient à accéder, mais avec une clé différente.
Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que pour atteindre la dernière porte, il faut 60 étoiles, je crois, ou 70.
Ah oui, d'accord, ok, autant pour moi. D'accord. Et voilà, en fait, il n'y a pas de cinématique au début des niveaux. Voilà. Je vais vérifier sur YouTube.
Donc, sur Super Mario 64, tu confirmes qu'il n'y a pas de cinématique. Donc, on te donne un indice qui est un indice purement textuel où on te dit allez botter le cul du roi Bobombe.
Ouais. Ouais, mais par contre, tu le vois effectivement dans le champ, c'est-à-dire quand t'arrives dans le niveau, t'as la montagne bien en visu.
D'accord, donc c'est plus du comment dire, de la narration par le design que véritablement te montrer exactement ce qu'il faut que tu fasses. Bref. Mais c'est vrai que sur Super Mario 64, on l'a pas précisé, mais la progression dans le jeu se fait de manière finalement assez simple. Les portes ont un nombre d'étoiles dessus et en fait tu ne peux accéder à un niveau que si tu as le nombre d'étoiles requis, ce qui fait que au tout début tu as que 2 ou 3 niveaux d'accessible. Alors au tout début d'ailleurs t'as qu'un seul niveau accessible, c'est la bataille de Bobombe.
J'avais une heure à la trouver quand j'avais 9 ans.
Voilà. Mais
premier jeu 3D, tu passes de la Game Boy à la 64, t'es perdu.
Ah non, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que le jeu, je trouve, fait un travail absolument admirable pour te guider là-dedans, justement, par juste le design. Mais effectivement, tu passes un moment dessus. Rien que le fait de dire tu peux entrer dans le château de Peach, je sais pas si tu vois le truc de ouf. Et c'est pour ça que quand tu sors du tuyau au tout début de Super Mario 64, Mario pointe vers le château de Peach. En fait, si tu vas juste tout droit, t'atterris sur le pont, il y a la porte, ça paraît logique d'aller l'ouvrir et de rentrer dedans. Mais c'est vrai que ça a l'air con comme ça, mais... Quand on parle à des gens qui ont moins de 20 ans...
Bonjour.
Voilà.
Ouais, non, bah, typiquement, moi, ça m'a pas du tout... Moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'est le fait que ça soit encore... Bah, je l'avais déjà dit dans la première émission, mais que ça soit très moderne, quoi. Enfin, que typiquement, j'étais pas perdu dans les contrôles. J'ai retrouvé exactement la même sensation qu'avec Galaxy. Que pourtant, j'y avais pas joué depuis des années aussi, mais... Enfin, je veux dire, c'était tout de suite très agréable, quoi. À part la caméra qui est un peu vieillie, mais sinon... Ça, on voit vraiment que ça a posé les bases de quelque chose.
Super Mario 64 est un jeu qui a posé les bases d'énormément de choses. On en avait déjà parlé, mais c'est vrai que ça fait partie des jeux où tu peux dire, Miyamoto il est arrivé, il a posé ses couilles sur la table et il a dit, vous voyez les gars, un jeu 3D, c'est comme ça que ça se fait. Puis juste derrière, il leur a remis une deuxième droite en disant, voyez, Ocarina of Time, c'est comme ça qu'on fait un jeu d'aventure 3D. Voilà, ça c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, bah derrière, t'as pas grand-chose à dire. Hein. Tu fermes ta gueule et puis tu suis le modèle. Mais bon, bref. Donc, effectivement, le Super Mario 64, tu es limité en nombre de niveaux que tu peux réellement arriver à trouver. Et ensuite, tu as les grandes portes avec des étoiles qui ne peuvent s'ouvrir que quand tu as une vingtaine d'étoiles. Ce qui fait qu'en fait, le château de Peach ne s'ouvre que étage par étage. Donc, tu commences par le rez-de-chaussée, puis tu as le premier étage, puis le deuxième étage. Et effectivement, pour atteindre.
Alors, non, tu as le rez-de-chaussée, le sous-sol et l'étage.
Oui, pardon. C'est oui, effectivement, puisque t'as les niveaux, mais c'est les niveaux les moins intéressants, le sous-sol. Enfin, si t'as la lave, mais la caverne, je sais pas quoi, là, c'est quand même un niveau ultra
relou. La caverne, je pense que c'est un des plus mauvais niveaux du jeu. J'aime beaucoup le désert et la lave, personnellement.
Bah voilà, je trouve qu'effectivement, c'est bien meilleur. Mais donc, pour ouvrir l'étage où il y a Bowser et pouvoir atteindre le boss de fin, effectivement, il faut 60 étoiles. J'avais pas tilté que sur Super Mario Sunshine, en fait, l'objectif, c'était juste de finir la shine numéro 6. Et du coup, ça veut dire que tu pourrais finir le jeu en ayant que...
Je pense qu'il en faut... Il y a aussi un nombre de shine minimum. Je me trompe peut-être sur quand je dis faut juste la shine numéro tant de chaque niveau, mais ça fait partie des conditions. Je pense qu'il y a aussi genre avoir 60 soleils. Mais je ne suis pas sûr. D'un autre côté, il y a combien de niveaux déjà en Sunshine hein?
Bah pour moi, il y en a à peu près autant que sur Super Mario... Alors, il y en a peut-être un peu moins que sur Super
moins,
Mario 64. Parce qu'effectivement, pour moi, les pièces bleues dont on avait parlé au tout début, ça ressemble quand même beaucoup à du remplissage parce que justement, on veut pas faire un niveau supplémentaire.
Et du coup, je crois
que dommage.
Il y a 8 ou 9 niveaux sur Super Mario Sunshine. Non, là, faudra vérifier, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est avoir le Shine 6 de chaque niveau, donc ce qui fait qu'il faut faire tous les Shines avant. Et il y en a pour lesquels c'est quand même particulièrement difficile parce que. Je sais pas si vous vous souvenez de la Raymanta dans
ah,
l'hôtel.
Ah putain, c'est atroce.
Et j'y ai passé des plombes avant de la battre. Alors
c'est encore, elle est plus compliquée en version japonaise d'ailleurs. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans la version européenne, t'as une Raymanta qui, à chaque fois que tu la touches avec l'eau, se sépare en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux. Et il y a un moment, faut toutes les battre. Je crois que dans la version japonaise, elle continue à laisser des traînées de merde, en fait. Même quand elle se divise, ce qui n'est pas le cas dans la version PAL. Il y a une différence entre la version JAP et PAL là-dessus. Il est beaucoup plus simple en version PAL et pourtant on y a déjà passé une quantité de temps absolument atroce.
Ouais, la gestion de la difficulté en Sunshine est vraiment pas géniale. Parce que tu meurs aussi pour ne pas avoir réussi une course à temps ou ce genre de truc. Je trouve qu'en plus de le. Ça colle pas très bien à des mécaniques de. Où la difficulté en fait c'est l'exploration et la recherche. Ils sont un peu foirés là-dessus, je trouve. Ce qui fait que Sunshine a des mécaniques un peu bâtardes et un peu difficiles. Là où 64, je trouvais un petit peu plus fluide de ce côté-là.
Même si sur Super Mario 64, comme sur Super Mario Sunshine, si tu perds une vie, que tu arrives au bout de ta vie ou que tu tombes, tu recommences du début du niveau. Hein.
Ouais, dans les deux cas.
Dans les deux cas, ce qui n'est plus le cas dans Super Mario Odyssey où tu redémarres au dernier checkpoint, dernière porte ouverte, un peu façon Zelda.
Il n'y a plus de vie d'ailleurs, à proprement parler.
Et tu n'as même plus de vie à proprement parler. Donc voilà, c'est vraiment c'est de l'exploration, faites-vous plaisir, donc ça ne sert à rien d'aller pénaliser le joueur pour des conneries.
On pourrait rajouter quand même un petit aspect intéressant à cette chaîne qui apporte quelque chose à la formule. Un peu une sorte d'abus dans les Mario 3D par la suite, c'est qu'ils vont rajouter une mécanique de mouvement. Propre à l'épisode, donc dans Odyssey on a le chapeau qui permet de faire beaucoup de déplacements notamment au niveau des sauts. Dans Galaxy on a le tourniquet qui permet de maintenir un petit peu plus dans l'air et de taper les ennemis. Et dans Super Mario Sunshine on a le jetpack, qui se fait avec de l'eau et qui du coup par contre permet de se maintenir en l'air tant qu'on a de l'eau dans son réservoir et ça dure assez longtemps. C'est qu'en fait toute la plateforme du jeu est quasiment anecdotique. En tout cas, dans 90% des niveaux.
Bah, dans tous les premiers niveaux, quand tu maîtrises pas encore bien la partie de jetpack, t'es pas forcément très à l'aise. Mais c'est vrai que dans les derniers niveaux, une fois que tu maîtrises bien, mais putain, oui, tu fais un saut contre un mur, un saut contre un autre machin, pouf, un coup de jetpack, tu rebondis sur un truc. Tu finis par faire des trucs extrêmement acrobatiques dans Super Mario Sunshine. Mais du coup, ça casse un peu certains level design. C'est un peu curieux de ce choix-là. De la part de Nintendo, d'avoir choisi que tu puisses casser le level design, ça ressemble un peu à un jeu Kirby dans lequel tu peux parcourir beaucoup de niveaux de la version NES juste en volant comme un connard à travers le niveau parce que bah voilà, c'est fait pour, quoi. Tu peux, si tu veux, ne pas affronter les ennemis et juste te contenter de voler par-dessus le niveau.
Ceci dit, Super Mario Sunshine a un aspect plateforme, enfin, centre plus sur l'exploration que la plateforme, et les moments où il y a de la plateforme pure, il te vole le jet, et là, le jeu devient très très dur.
Mais là, ce que je trouve extraordinaire avec ces niveaux-là, c'est que là, c'est vraiment des niveaux exploratifs au sens brut, c'est-à-dire qu'il faut trouver où ils sont. Ils sont, me semble-t-il, pas du tout indiqués dans la liste des shines. C'est un truc qu'il faut trouver dans chaque niveau.
Ah, s'ils sont indiqués.
Ah merde.
C'est indiqué.
Pour moi, ça l'était pas.
C'est des niveaux obligatoires, hein, certains.
Putain, j'avais le souvenir que tu pouvais tomber dessus plus ou moins par hasard.
Certains, ça... oui, mais il y en a d'autres. C'était vraiment une table obligatoire. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait arrêter le jeu, parce qu'il y en avait où je bloquais carrément.
Moi, ce que je les trouve extraordinaires. D'abord, t'avais cette musique absolument extraordinaire de pa 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 da pa. Voilà, tout en a cappella qui était énorme. C'est des niveaux qui sont extrêmement abstraits, puisque c'est en général juste des blocs flottants dans le vide, qui sont très difficiles, parce qu'effectivement, c'est un petit peu la méthode de la sucette, c'est-à-dire qu'on t'a filé du sucre, t'es blindé à mort parce qu'on t'a filé de jet, et t'as des possibilités de mouvement dans tous les sens et tout ça, et on te prive de ton jouet, on t'enlève le sucre, et faut que tu te démerdes sans, et tu te rends compte à ce moment-là que, putain, en fait, jet, c'est vachement bien. Et ce que je trouve énorme, c'est que je suis à peu près persuadé que c'est ces niveaux-là qui ont servi de prototype pour Super Mario Galaxy, parce que tu vas retrouver énormément de niveaux comme ça, très 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 abstraits, avec des planètes flottantes et des choses comme ça, et des plateformes flottantes un peu dans tous les sens, qui bougent, qui font tout un tas de trucs, et où c'est juste une question de timing, de mouvement, de prendre les bons risques au bon moment, de réagir au bon moment. Enfin, moi j'adore les niveaux sans jet, je trouve que c'est vraiment... Effectivement, c'est de la plateforme pure et dure, très difficile, vraiment pas évident du tout à aborder, mais qui est super gratifiante quand il arrive. Par contre, je me souvenais pas effectivement qu'il y avait des niveaux obligatoires, et que pour moi c'était vraiment le truc que t'arrivais à trouver dans le niveau en passant telle porte, et t'avais le niveau sans jet, et tu te démerdais, quoi. C'est un souvenir biaisé.
Ce côté dont vous parliez avec le jet de casser le game design, enfin le level design, il se retrouve aussi dans Odyssey. Avec le chapeau, avec les possibilités de plateforme que ça offre, même si c'est j'ai regardé des vidéos, je l'ai pas évidemment vu que j'ai pas la Switch, mais les mecs avaient l'air quand même de doser, donc je sais pas si ça sera aussi...
Ça demande de la pratique. Ça demande vraiment plus de pratique que le jet. Il y a une marge d'erreur assez grande. Le chapeau, globalement, faut bien le lancer, faut bien faire les actions qui suivent derrière. Tu peux aussi gruger, mais moi je le fais déjà, tu vois. Et je trouve que par rapport au... En fait, le jet te permet de le faire, et en plus t'offres un filet de sécurité assez énorme, parce que le chapeau fait pas tant que ça au final.
Mais ce que je trouve aussi dans Odyssey, c'est compliqué. Mais le jeu encourage ça. J'avais vu une vidéo où c'était... Alors je sais pas c'est dans quel niveau du coup. Mais c'était... Il y avait une sorte de... Je sais pas, ça ressemblait à un toit de Panthéon un peu. Mais le toit était plat. Et en fait tu te promenais... Enfin, il y avait un chemin en dessous. Et le type a réussi à monter sur des colonnes. Donc à droite et à gauche. Avec le chapeau et à coup de wall jump.
C'est le niveau du désert, et effectivement... Si t'arrives à atteindre le haut...
Oui, il y a une énorme montagne de pièces.
C'est ça. Le haut du truc. Ça veut dire qu'effectivement, Nintendo avait prévu le fait que tu puisses éventuellement l'atteindre, mais le seul moyen véritablement de l'atteindre, c'est de entre guillemets, de baiser le jeu, quoi. Donc ça veut dire que c'était quand même prévu.
J'ai tombé sur une lune comme ça qui me demandait clairement de faire un mouvement qui était un petit peu plus complexe. Enfin, quand je suis arrivé devant, j'ai fait, mais je vois pas comment je pourrais l'avoir autrement, en fait.
Après, il y a peut-être d'autres solutions, mais mais je trouve qu'effectivement le jeu est plus ouvert dans un pour revenir à Super Mario Sunshine. T'as pas 50 solutions pour récupérer chaque shine, même si Jet te donne quand même des possibilités pour arriver à baiser certaines parties du level design, mais c'est pas baiser au sens guaquer complètement le jeu en faisant un truc totalement improbable façon Zelda finalement. Non, c'est vraiment il y a un moment où tu devrais franchir tel truc de telle manière, et en réalité ben, tu peux le faire en mode je bourre avec le jetpack jusqu'à l'autre bout du gouffre et j'arrive au bout et voilà quoi. Donc tu as la solution, on va dire, officielle, tu as ce que le level designer attendait de toi, et il y a ce que tu peux réellement faire, parce qu'en fait, Jet t'ouvre des possibilités qui n'ont pas forcément été pensées au départ. J'ai l'impression que... Enfin, Jet n'est pas forcément quelque chose qui ressemble à un rajout de dernière minute, mais j'ai l'impression qu'il y a certains levels de Super Mario Sunshine qui avaient été faits avant que Jet ait véritablement été conçu ou implémenté dans le jeu. Ou peut-être à une époque où Jet n'avait qu'une seule fonctionnalité qui était d'arroser, et pas de te maintenir en l'air. Il y a certains niveaux où tu sens quand même que Jet te simplifie énormément la vie, peut-être plus que ce que le level designer aurait voulu. Mais c'est peut-être juste une idée. Hein.
On sait quand même que Sunshine, contrairement à Mario 64, qui a quand même eu le droit de finir, qui a pris un peu son temps à finir, parce qu'il sortait avec la console et la 64 devait sortir avec Mario 64. Pouvoir montrer la puissance de la console et la puissance du joystick.
Alors et que puis, il faut voir que la manette N64 avait pratiquement été conçue pour ce jeu. Parce que,
voilà. Ça c'est Miyamoto qui peut se permettre de faire ce genre de choses. Alors que Sunshine est un jeu qui n'est pas sorti avec la GameCube et qui a été, de ce que j'ai cru comprendre, précipité un petit peu comme l'a été Wind Waker juste après. Pour pouvoir sortir avant la fin de l'année 2002 et aider la console à démarrer parce qu'elle était à la traîne par rapport à la Xbox et la PS2.
D'accord, donc du coup...
Expliquerait l'existence des pièces bleues, d'une certaine maladresse, de certains niveaux qui se sont bien buggés et beaucoup trop pour un Mario.
Et de quelques
mauvaises idées aussi qui traînent dans le jeu, parce qu'il y en a quelques-unes.
De certaines shrines un peu curieuses, comme celle où t'es sur le roller coaster dans le parc et qui n'a absolument aucun intérêt comme séquence. Qui est complètement.
Ouais, t'as une espèce de niveau en forme de pachinko où tu dois récupérer des pièces rouges. C'est ultra aléatoire et en plus, si tu te gourres, tu meurs. Et c'est un des niveaux les moins bien foutus du jeu. C'est vraiment du hasard pur. Et tu sens que ça fait un peu partie des idées qui ont été rajoutées à l'arrache pour finir le jeu, quoi.
Et il y a l'atroce aigle de sable que je n'ai personnellement jamais réussi à finir parce qu'il est hyper trop difficile et j'ai jamais compris la méthode pour arriver à le faire. J'ai dû passer 3 heures dessus et c'est le moment où je me suis dit, bah tant pis, je ferai pas les 120 shines de ce jeu-là. Alors déjà parce qu'il y avait les pièces bleues et que j'avais vraiment pas envie de le faire, il y en a une quantité hallucinante et... Et je crois qu'il n'y a même pas d'indicateur comme quoi tu as pris toutes les pièces bleues d'un niveau. Alors, je
non,
sais
mais
pas...
tu sais, mais d'ailleurs, tu n'as pas d'indice pour y trouver de mémoire. T'en as qui sont foireusés une dalle spécifique dans l'hôtel, par exemple, va savoir qu'il fallait l'arroser.
Ouais, non, mais il y a vraiment des... C'est Super Mario Sunshine, enfin, on a l'air de dire que c'est un mauvais jeu. Super Mario Sunshine est un bon jeu, j'ai pas de souci là-dessus. Simplement, il y a effectivement des trucs complètement incohérents dedans, que ce soit en termes de game design ou de level design, qui font que... Bah, c'est un jeu qui est moins révolutionnaire que Super Mario 64 parce que la 3D ça existe maintenant, donc voilà. Mais qui en plus a l'air d'être effectivement beaucoup moins bien foutu. Alors ça n'empêche pas d'être très fun, d'avoir vraiment des niveaux mémorables et des shines mémorables et tout un tas de trucs très rigolos. Et moi je me souviens que j'avais vraiment bien aimé le jeu en lui-même, il est très agréable à parcourir. Par contre, pour le faire à 100%, je trouve ça moins motivant qu'un Super Mario 64 où finalement je trouve que ça se fait assez bien.
Si, si, même la fin du jeu, moi je la trouvais vraiment mal faite. Enfin, la barque dans le volcan qui est vraiment une des pires idées qu'a eu Nintendo à mes yeux dans un Mario, c'était une sacrée purge. Le truc est pas maniable, tu te prends un rocher, tu meurs et tu recommences tout le niveau, quoi.
Ouais, mais en même temps, c'est le dernier niveau donc fallait bien. Je comprends ce que tu veux dire.
C'est pas intéressant en étant dur, Bouzard des Cieux, c'est un niveau qui est dur, mais c'est intéressant. Là, c'est pas drôle en fait.
Ouais, c'est là qu'on sent peut-être les limites un petit peu de Super Mario Sunshine. C'est pour ça que je me dis peut-être que si Nintendo n'a finalement jamais sorti de remake de Super Mario Sunshine, c'est peut-être aussi pour ça, c'est que finalement, le jeu est pas mauvais en soi, mais je dirais qu'il y a, il y a 70% du jeu de bonnes idées et il y a peut-être 30% qui sont quand même pas assez abouti peut-être, pas assez fini, pas assez fignolé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Nintendo où effectivement il y a en général très peu de déchets. Effectivement il y a quelques séquences de jeu qui a posteriori sont un peu maladroites, on va dire.
Alors j'avais une question du coup par rapport au Mario exploratif en général concernant, je sais pas si vous l'avez sûrement pas vu, mais c'est un tweet d'un vidéaste qui s'appelle Exhaust qui disait qu'il trouvait dommage dans Odyssey que l'exploration elle soit récompensée que par des éléments prévus dans le jeu, dans le sens où l'exploration elle est récompensée par une lune, par des pièces, etc. au lieu de, à la manière de Breath of the Wild, par un beau panorama, par un PNJ avec un dialogue assez sympa, machin. Tu vois, quelque chose un peu en dehors. Et donc, du coup, je me demandais si dans... Parce que je ne les ai pas assez faits. Si dans 64 et Sunshine, c'était plus... Enfin, l'exploration était vraiment récompensée que par des lunes. Enfin, que par des lunes ou des étoiles ou des soleils, quoi.
Globalement, ouais, c'est comme Odyssée où... Je récupère uniquement ce qui est prévu par le jeu. Et Odyssée, encore, je trouve que il y a quand même un peu plus de récompenses sociales. Si t'es attentif, tu peux trouver des petites références sympas aussi, quoi.
Mais déjà, je trouve que c'est un peu idiot de dire que c'est pareil pour récompenser. Enfin, genre dans Breath of the Wild, par exemple, s'il y a un PNJ, c'est quand même que c'est le jeu qui récompense. À part le panorama, au final, qu'on peut voir de loin et qui n'est pas forcément prévu, par exemple, si on accède à un certain endroit, tout le reste est logiquement prévu par les développeurs. Enfin, ça semble idiot de dire l'inverse.
Non, mais prévu
à moins de faire un bug ou
dans le sens où à mon avis c'était dans ce sens-là et je le comprends, ou dans le sens où tu vois par exemple quand pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, quand tu montes dans le monde du désert dans Odyssée, quand tu montes au-dessus du bâtiment et que t'as fait parce que quand tu regardes la vidéo, bon, le mec a manifestement passé beaucoup d'heures sur le jeu, quoi, et il maîtrise les mouvements, et que t'arrives à monter au-dessus. Est-ce que ça casse pas un peu ce que tu viens de faire, le sentiment d'accomplissement, de dire que le truc a été totalement prévu par les développeurs, tu vois?
Ouais, mais
de dire
quoi,
voilà, tiens des pièces.
T'aurais voulu rien du tout, du coup?
Non, mais pas rien du tout, mais genre, je sais pas, moi, pour le coup, je l'ai pas, mais les visuels, il est quand même assez beau, Odyssée. Donc, peut-être genre un beau panorama qui fait un beau screen, tu vois?
Genre, et du coup, c'est quelque chose qui est prévu par les devs, en fait.
Ouais, mais qui est prévu, mais qui est pas, si tu veux, qui est pas posé là en mode tir du score, tu vois.
Ouais, après, je trouve que c'est pas quelque chose à demander à tous les jeux non plus. Enfin, Mario, Odyssey, c'est un jeu d'exploration, mais au final, c'est pas tant une aventure que Zelda, et plus une. Parce quand même dans l'esprit du Mario d'origine où il faut aller d'un point A à un point B et accomplir un objectif à la fin, quoi. Ça paraît un peu bizarre de demander ça, et en plus il y a un mode photo où tu peux vraiment t'amuser et faire aussi des jolis panoramas comme tu veux.
C'était plus pour poser la question, du coup, pour vous, enfin, genre, c'était quoi le... comment le jeu il doit récompenser, quoi, l'exploration? Et du coup, enfin, ce serait plus à travers des lunes et des machins, enfin des étoiles, je sais pas, ça diffère des jeux, quoi.
Soyons clairs, dans Super Mario 64 et dans Super Mario Sunshine, Quand tu fais un truc qui sort un peu du commun, surtout dans Super Mario 64, quand tu vas aller faire un truc un peu... atteindre un endroit un peu spécial, tout ça, tu t'attends à une récompense. Clairement. Parce que il y a... Contrairement à des jeux je cite un exemple à la con, hein, mais c'est juste pour illustrer le propos. Des jeux comme GoldenEye, où finalement les objectifs ont été mis a posteriori, c'est-à-dire que les niveaux ont été conçus d'abord... et les objectifs ont été mis après, ça fait que t'as un truc finalement très organique dans lequel il y a des pièces qui ne servent à rien. Il y a des cul-de-sac. Donc ça aide à rendre le monde de GoldenEye plus réaliste, dans le sens où effectivement, il y a des chiottes dans Facility, parce que c'est une base militaire, il faut bien qu'il y ait des chiottes quelque part. Voilà. Dans Super Mario Sunshine, si tu trouves les chiottes, tu t'attends à faire un mouvement spécial pour pouvoir vider la flotte qu'il y a dedans et récupérer une shine. Parce que c'est des mondes qui ont été designés pour ça. T'es pas du tout dans du design organique que tu pourrais avoir dans un Zelda, qui serait plus logique, puisque l'objectif est d'explorer quelque chose qui soit proche de la réalité. Donc, proche, je mets des gros guillemets, hein, c'est juste pour illustrer. C'est-à-dire que dans Zelda, tu explores un monde qui est supposé être organique, donc effectivement, c'est pas normal qu'on te récompense quand t'as été en haut de tel arbre, parce que l'arbre, il était là, et tu t'es dit, tiens, je vais grimper dessus pour voir ce qu'il y a dessus, aller voir un peu plus loin. Ça paraît pas logique d'être récompensé par le jeu pour ça. Alors que dans un Mario dans lequel tous les niveaux, que ce soit Mario 64, Mario Sunshine, Mario Odyssey, les Mario Galaxy, tous les niveaux ont été spécifiquement designés pour être joués, pour être explorés d'une certaine manière, c'est beaucoup plus logique d'être récompensé quand tu arrives à faire certaines choses. Y compris des choses qui étaient effectivement pas forcément prévues. Ça veut juste dire que les mecs qui font la Quality Assurance chez Nintendo... on dit aux gars, bah tiens, regardez, si on fait des manœuvres de ouf, on peut arriver en haut de tel truc, bah, du coup, ce serait peut-être bien de mettre quelque chose pour les gens qui y arrivent. Parce que tu es dans des niveaux qui sont faits pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que les niveaux de Mario sont beaucoup plus abstraits que ceux de Zelda qui sont pas du tout abstraits, enfin qui sont complètement intégrés de manière pratiquement sans couture avec le monde, quoi. Car à part les sanctuaires dans Breath of the Wild, tout est complètement ça forme un tout.
Ouais, je le vois. D'accord.
C'était mon avis. On va peut-être s'arrêter là parce que ça commence à faire tard.
Ouais.
Voilà. Et donc on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Super Mario Odyssey. Du coup.
Yeah.
Voilà.
Et quoi? Et...
Pardon. Prie de m'excuser, je suis un peu malade. Je voudrais remercier Marianne qui nous a envoyé un gentil mot pour dire que Drosgar était une grosse star. Parce qu'il avait parlé et en bien de Animal Crossing Feu de camp, enfin je sais plus comment ça s'appelle.
Feu de camp.
Oui, et j'ai d'ailleurs, alors... c'est le seul jeu Nintendo sur mobile qui accepte les utilisateurs root. Alors gros bravo Nintendo, et du coup je vais y jouer.
Alors je reparlerai la semaine prochaine après deux semaines dessus. Mon avis sera sûrement un peu plus mitigé.
Ah, voilà.
Mais
donc...
je vais me poser un peu le temps d'écrire un truc.
Ça peut être intéressant. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura du Mario Odyssey, il y aura donc peut-être un petit truc rédigé par Drosgar dont on fera la promo pour Animal Crossing Campement. Let's go camping.
Camping avec Franck Dubosc.
Voilà. Mario Animal Crossing Cross Franck Dubosc. Bref, donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bisous.
Bye.
David Lamarche Pokémon.
Oh l'enfoiré.